Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, une Muriel Robin très en forme au micro d'Anthony Martin. Elle sera mercredi à l'affiche du film Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. Autre rencontre avec l'écrivain Philippe Djian qui publie Dispersez-vous, ralliez-vous, un roman qu'il nous présentera avec Bernard Lehu et que nous vous ferons gagner, dédicacé au 3210. Les lieux de création et les secrets de fabrication des plus grands artistes peintres sont dévoilés dans une exposition intitulée Dans l'atelier. Si vous êtes à Paris pendant les vacances, c'est au Petit Palais. Monique Younes nous y emmènera. Et puis ce soir, c'est la finale du concours Top Chef sur M6. Ce sera l'un des choix de télé d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors, 36 ans après la version de Jean-Claude Brialy, on découvrira donc mercredi au cinéma Les Malheurs de Sophie, adapté par le réalisateur Christophe Honoré. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Le réalisateur s'est en fait inspiré des deux romans phares de la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles.
Oui, Christophe Honoré, connu pour ses films musicaux, a signé, et on le sait moins, une vingtaine de romans jeunesse. Il marie donc pour la première fois le cinéma et la littérature pour enfants. Et Honoré nous propose un bout de vie avec Sophie, cet enfant roi qui multiplie les bêtises qu'on rêve de faire. Et qui, une fois orpheline, va tomber en disgrâce sous la garde de sa belle-mère, une marâtre intensément sadique. Heureusement, ses copines, les petites filles modèles et leur maman vont sauver Sophie. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le film. Honoré en fait un récit contrasté qui colle à son univers. C'est sombre et perturbant, à mi-distance entre l'innocence et la cruauté. La réussite tient également au fait qu'on s'attache à Sophie et aux enfants, j'y reviendrai, qu'on est surpris par quelques touches d'animation dans le film et qu'on ressort finalement avec un élan joyeux au fond du cœur.
Et c'est donc Muriel Robin qui incarne la marâtre de Sophie.
Oui, elle apparaît à mi-parcours en robe style empire, puisque c'est un film en costume et que Christophe Honoré a choisi l'ère napoléonienne, avec au passage un superbe travail de décor et de lumière. C'est le réalisateur qui est venu chercher Muriel Robin. La comédienne n'a pas hésité. Elle a même été attirée par ce rôle d'ogresse domestique.
La dureté, c'est quelque chose que je connais, qui est familier. Parce que chez moi, c'était dur. On n'a pas été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais c'était dur. On ne se touchait pas. Il n'y avait pas de bisous. Il n'y avait pas de mots gentils. Bon, ils ne savaient pas faire. C'est comme ça. Donc, comme la dureté est familière, j'y vais direct, j'ai le moteur.
Sophie a été confiée aux soins de sa belle-mère, Madame Fichine.
Les beaux valets jettent le trouble dans une maison. Moi, je l'ai choisi piscornu et laid. Il faut bénir le ciel de la laideur des petites gens.
Très honnêtement, ça parle un peu de moi parce qu'on clone souvent. Moi, j'ai cloné ma mère et j'ai été très dure. Et j'avais envie qu'on vienne gratter derrière parce que je savais bien que dedans, il y avait un petit être bien plus sympa que ça. Donc, c'est vrai que j'ai une forme de compassion pour les gens durs. Vraiment, vraiment. Donc oui, j'ai une petite fichinie au fond de moi. Oui. Ça fait bizarre à dire, je vais arrêter de le dire parce qu'on va penser vraiment que... Parce que être drôle, ce n'est pas être gentil. Donc, elle est très drôle et finalement, donc elle est très méchante.
Et Muriel Robin fait très bien. La méchante à la trogne empourprée. Elle réussit à amener le rire et la fantaisie dans l'univers de Christophe Honoré en donnant des allures franchement grotesques à cette Madame Fichine.
Alors, chose pas évidente, car cette marâtre n'y va pas de main morte avec la petite Sophie.
Ah, hein. Ça c'est sûr. Le fouet et les gifles, il n'y a que ça pour élever un enfant, affirme Madame Fichine. Muriel Robin partage l'écran avec Sophie. On y vient, c'est l'héroïne jouée par Caroline Grand. 5 ans au moment du tournage. On ne peut pas lâcher la fillette du regard. Elle est incroyable. Un regard noir dans lequel il y a autant de malice que de mélancolie. Cette petite Caroline est troublante. Honoré la filme bien sûr à sa manière, de façon alerte, en gros plan cadencé. À 2 reprises dans le film, Madame Fichini corrige Sophie en la giflant. Coulisses du tournage, j'ai évidemment demandé à Muriel Robin comment on fait pour gifler une petite fille de 5 ans devant la caméra.
Déjà, on s'exerce à la maison sur la personne avec laquelle on vit. On lui demande de se mettre à genoux pour être à la bonne taille. Alors après, ça fout un peu en l'air le couple, mais pour savoir ce qu'on veut. Hein. Moi, je veux faire du cinéma, donc voilà, je me donne tous les moyens. Et une fois que vous n'avez plus de vie privée, bon, mec, que vous savez gifler une enfant, eh bien non, c'est compliqué. Elle est irrésistible, cette Caroline. Donc c'est des vraies fausses gifles, mais elles ont un goût de vrai quand même, parce qu'on peut pas faire la fausse gifle où la main ne touche pas du tout la joue, la gifle de cinéma, parce qu'une enfant, elle sait pas faire ça, donc il y a quand même un contact, elle tourne la tête. Et là, enfant ou adulte, au bout de 3 vraies fausses gifles, et aux 2 secondes, on va un peu lever le pied. Donc la petite, elle pleure. Et là, je l'ai prise dans mes bras, évidemment. On fait des bisous, puisqu'elle a 2 boîtes à bisous avec ses fossettes. Puis elle comprenait très bien. Christophe s'appliquait à lui dire, tu sais bien que c'est pas oui, mais quand même, bon. Mais ça ne durait pas 2 heures. Hein. Ouais. Je dois dire que... C'est des scènes qui ne m'ont pas les plus. Finalement, j'ai découvert une partie de ma fille qui lâche tout.
Les enfants, n'ayez pas peur. En vrai, elle est vraiment, vraiment, vraiment très gentille. Mais dans le film, il faut croire qu'elle est méchante.
Voilà, était-il nécessaire de le préciser, mais dans la voix de la petite Caroline Grand qui joue Sophie, c'est assez irrésistible.
Donc si je comprends bien, la version des malheurs de Sophie de Christophe Honoré n'est en rien édulcorée.
Ah non, le film est fidèle au sadisme du roman. Sophie ampute son effrayante poupée, serre l'eau de la gamelle du chien en guise de thé, et scène qui a marqué tous les jeunes lecteurs, moi je m'en souvenais, elle coupe au couteau les poissons rouges qui sont encore vivants. Muriel Robin, est-elle comme ça d'ailleurs, ou était-elle une petite fille modèle? Réponse.
J'étais plutôt raisonnable. Et comme j'ai un petit garçon à l'intérieur de moi, j'étais aussi un petit garçon raisonnable. Donc je me revois aussi bien quand je joue aux billes dans la cour qu'au foot, qu'à la poupée. Mais la poupée, ça m'a très vite agacée. Non, j'ai pas fait des grosses bêtises. Mes parents avaient confiance et à juste titre. Même si je leur disais que j'allais au cinéma et que j'étais en mobylette, que j'allais dans une boîte de nuit à 14 ans. Mais j'étais raisonnable dans le peu de bêtises que j'ai faites. Voilà.
Vous étiez déjà un peu adulte dans la tête avant l'heure?
Ah ben, moi, j'étais adulte puisque à 13 ans, mes amis avaient 18-19 ans, donc j'étais adulte très très tôt, quoi. J'ai pas été adolescente du tout. Je l'ai sauté, ça. Ce qui fait qu'il y avait un petit décalage. J'étais mûre, évidemment, pour plein de choses, mais en même temps, quand j'ai flirté avec un garçon, j'avais 13 ans, lui en avait 18, on s'est embrassé sur la bouche avec la langue, et quand on s'est quitté, je me suis dit, oh là là, comment je vais dire à mes parents que je suis enceinte? Donc j'étais mûre, mais j'avais un petit manque de connaissances sur certains dossiers.
Voilà, Muriel Robin ne joue pas une des deux petites filles modèles hein, qui sont à croquer dans le film, mais la méchante Madame Ficini, sous la direction de Christophe Honoré, dans Les Malheurs de Sophie. À partir de mercredi en salle, elle partage l'affiche avec Anaïs de Moustier et l'actrice franco-iranienne Golfishté Farahani. À voir en famille avec les plus petits, même si à mon avis, franchement, il y a quelques scènes angoissantes pour les plus petits.
Bon, c'est quand même un film grand public.
Oui, totalement. Hein, Honoré, qui est plutôt catalogué cinéma exigeant, s'adresse cette fois à toute la famille. Et j'ai demandé à Muriel Robin, qui a aussi tourné avec Mai Wen, si elle allait creuser ce sillon du cinéma d'auteur, si elle avait d'autres projets.
Comme d'habitude, rien, hein, comme depuis longtemps. Maintenant, ça me fait rire. Il y a quelques années, on me parlait de ça, j'étais au bord d'éclater en sanglots. S'il vous plaît, faites-moi faire du cinéma, la pauvre fille, avec tous ces gens qui m'aiment, et ne jamais faire de cinéma ou trois films, quoi. Je pense que je peux être une meilleure amie assez sympa, je peux être une tante, je peux peut-être même être un oncle si ça dépanne, s'il faut que je me colle une moustache, parce qu'il y a un acteur qui a dépanné, enfin, c'est 4x4, je peux dépanner. Puis ça va, non, mais c'est une année plutôt douce, parce que ce film, Ficini, une nomination au Molière, ça veut dire qu'ils ont coché mon nom. Il y a Momo, la reprise de Momo. Il y a les 20 ans de Il s'aime à la rentrée à partir du 6 septembre à l'Olympia. On fait tourner, on finit au Zénith. Donc il y a 60-70 représentations. J'ai une émission après qui se passe avec les animaux sur France 3 où on verra mon côté fille authentique, quoi. Donc je crois que cette année, il y aura tout. Ma grosse carte de visite, en fait, sera je vais faire un montage de mon année 2016. Allez, crac.
Voilà, elle est au top. Muriel Robin, bien occupée dans les mois qui viennent et donc au cinéma mercredi.
Et je signale que les textes originaux de la comtesse de Ségur viennent d'être réédités chez Hachette. Merci Anthony. On passe donc aux audiences de notre week-end. Avec vous, Isabelle Moreni-Bosque.
Ils se suivent. Oui, ils se suivent et se ressemblent. Vendredi se rassemblent ainsi 5 400 000 fidèles devant Koh-Lanta sur TF1. Un téléspectateur de 4-14 ans sur 2 est devant la 1. Le brillant deuxième, CK1 sur la 2. Samedi, TF1 d'accord, TF1 encore. The Voice Feder, encore quasiment 6 millions d'amateurs devant le polar de la 3, Mongeville, deuxième. Patrick Sébastien est troisième. Et hier, enfin, la 1 encore. 6 200 000 personnes étaient devant After Earth, le film sur TF1. 3 200 000 devant le cœur des hommes, deuxième sur la 2. Côté TNT, les gagnants du week-end sont les Chevaliers du Fiel vendredi sur M6, 1 200 000 fanas du spectacle au taquet.
Isabelle Moreni-Bosque, dans un instant vous avez rendez-vous avec Bernard Lehu qui nous présente le dernier roman de Philippe Djian, que vous gagnerez d'ailleurs en jouant au 32-10. A tout de suite, merci d'écouter RTL.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Il est 9h12, Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré Philippe Djian qui publie chez Gallimard « Dispersez-vous, ralliez-vous », un titre inspiré d'un poème de Rimbaud, si mes souvenirs sont exacts.
Mais ils le sont, Yves. Et c'est à la fois le mot d'ordre et le résumé de ce nouveau roman de Philippe Djian. La vie nous malmène, nous égare, nous disperse, mais elle nous apprend aussi à surmonter ces épreuves, à nous construire, à nous rallier à nous-mêmes et aux autres.
Alors c'est aussi ce qui attend l'héroïne imaginée par Philippe Djian, Myriam.
Mais oui, quand le livre commence, Myriam est une adolescente au stade larvaire, introvertie, amorphe, mutique, sous la coupe d'un père autoritaire, en manque d'une mère qui a fui, et encombrée d'un frère toxique. À 18 ans, Myriam épouse le voisin, 25 ans de plus qu'elle, toujours aussi passive, indifférente à tout, même au sexe. Elle se retrouve pourtant vite enceinte et donne naissance à une fille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas vraiment la fibre maternelle.
On a envie de la secouer, hein, cette Myriam, oui. Qu'elle réagisse, qu'elle prenne son destin en main.
Mais ne soyez pas impatients, c'est ce qu'elle finira par faire. Et c'est parce qu'elle ne savait rien de la vie, parce qu'elle était comme une page blanche, que Myriam subissait. Dispersez-vous, ralliez-vous, raconte son initiation, son émancipation, l'éclosion d'un être adulte. Alors, qui va emprunter, bien sûr, des détours chaotiques, rock'n'roll, comme toujours chez Jian. Mais au final, l'auteur de 37.2 le matin réussit un sacré portrait de femme.
Ah non, je les connais de moins en moins, mais c'est mon côté féminin à moi. C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent, par exemple, mais oh là là, quand on croit vraiment que c'est une femme qui parle, pas du tout. J'essaye pas du tout d'écrire comme une femme, je pourrais pas. Et je pense que le ridicule est proche quand on essaye de parler comme quelqu'un du sexe opposé. Non, je parle comme si j'étais une. C'est mon côté féminin. J'ai l'impression que les femmes sont plus sensibles au monde, aux choses terre à terre. Elles comprennent bien ces choses-là. Et en même temps, elles y mettent à la fois un regard particulier, mais elles y mettent du sentiment, elles y mettent de la poésie. Que nous, des fois, les hommes, on a du mal à intégrer cette espèce de relation au monde. Elles sont sensibles. Et moi, j'aime la sensibilité. Donc. Et en même temps, Céline disait, ah, mes contemporains sont lourds, soit ils n'ont pas si lourds. J'ai l'impression que les femmes sont un peu plus légères.
Alors, je retiens la formule de Philippe Jian, les femmes plus sensibles au monde.
Eh oui, et Jian qui, comme d'habitude, écrit pied au plancher avec un texte qui file à 100 à l'heure, à coups d'ellipse qui sont autant de coups d'accélérateur. Et alors, le tout dans une atmosphère, comme toujours chez lui, teintée d'étrangeté. Exemple ici, la présence d'un zoo et de ses animaux à côté du domicile de Myriam, son héroïne, et qui fascine cette héroïne.
J'étais aussi amusé parce qu'à un moment, quand son père meurt, on lui donne les cendres de son père et elle ne sait pas quoi en faire. Donc elle va dans le zoo et elle dit « J'ai donné les cendres de mon père au gnou.
Bah, » pourquoi elle pas, les disperse dans l'enclos des gnous.
Oui. Pourquoi pas, vaut mieux ça que de le mettre dans une boîte et d'attendre que ça pourrisse. Non. En même temps, moi, je trouve ça très poétique. Il y a des gens que ça fait rire, ils ont raison de rigoler d'ailleurs. Mais moi, ça ne me fait pas rire, je suis plutôt émerveillé par son geste. Mais les animaux, en même temps, elle est transportée par la beauté des zèbres. Ça m'est venu qu'avec une phrase. Ça m'est venu avec une phrase, comme ça, je disais, elle adore les zèbres. Et après, je suis retourné voir dans un zoo des zèbres. Et je me dis, quelle beauté fulgurante, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, je trouve qu'elle a raison tout le temps. Je pense qu'on devrait la suivre quelque part.
Eh bien, tentez l'expérience, allez suivre Myriam, la nouvelle héroïne de Philippe Jian, l'écrivain qui n'oublie pas ce qu'il doit à ses lectures de jeunesse et qui, plus que jamais, a envie de partager sa passion de l'écriture.
Je me suis aperçu que très très tôt, j'ai pensé que j'étais aussi un acteur des textes que je lisais. J'avais besoin de faire un effort, j'avais besoin de me concentrer, j'avais besoin de donner à l'auteur ce que lui essayait de me donner. Et il y a cette idée du don aussi. Pourquoi j'écris ? Ces gens m'ont fait tellement de bien. Si je ne fais pas un tout petit peu l'effort de rendre un peu ce qu'on m'a donné, à quoi je sers ? À rien. Et la littérature sert à rien à ce moment-là. Et j'arrive à un âge... parce qu'avant, j'étais un jeune auteur. Je ne suis plus un jeune auteur, c'est terminé. Donc c'est maintenant que je dois rendre ce qu'on m'a donné. Et ça m'a fait tellement de bien dans la vie. Ça m'a tellement ouvert les yeux. Ça m'a tellement montré le monde, les angles avec lesquels, par lesquels je devais regarder le monde. Si je ne suis pas capable d'en rendre ne serait-ce qu'une toute petite partie, je ne sers à rien. Et j'ai envie de servir à quelque chose, si possible.
Dites-moi, il est en forme. Je l'ai rarement entendu aussi. Enfin, voilà, ouvert et solaire. Enfin, il...
Non, moi, je trouve... C'est souvent. Voilà, alors le moins en moins jeune auteur, Philippe Jian, publie « Dispersez-vous, ralliez-vous » chez Gallimard. Entretien complet à retrouver sur RTL.fr.
Alors, nous vous
offrons... dynamique.
Oui, ben nous vous offrons ce nouveau roman de Philippe Jian, dédicacé par l'auteur. Ouais. Mais pour ça, il faut répondre à la question que vous pose immédiatement Bernard.
Alors, Myriam, l'héroïne de « Dispersez-vous, ralliez-vous » vit près d'un lieu inhabituel. Est-ce un zoo ou un parc d'attractions ?
Réponse au 32-10. On va donc passer directement à la télévision. C'est ce soir, je vous le rappelle, la finale de Top Chef sans Clem en face sur TF1. M'avez-vous susurré, Isabelle ?
Oui, mais vous savez, la concurrence sera peut-être aussi rude hein, avec la rediffusion d'un Joséphine Ange Gardien sur TF1 et Résoléana sur la 2 qui va nous faire 4 500 000 téléspectateurs sur France 2. Et sur la 3, il y a le mur de l'Atlantique. Vous savez, ce restaurateur embringué dans la Résistance, c'est la dernière comédie de Bourville mort juste avant la sortie. Et ça va nous faire à peu près comme le mur de, comme la semaine dernière, le jour le plus long, c'est-à-dire près de 12 millions de personnes au total sur la 1, la 2. La 3, c'est pas négligeable. Hein.
Bon, en plus, il y a la TNT qui attaque.
Hein. Oui, parce qu'exactement, la Top Chef devra compter avec les 4 Fantastiques sur W9 et Kung Fu Panda sur TMC, ce qui avait fait 3 200 000 entrées en France en 2008. Panda. Et ben, ça va nous faire, comme lundi dernier, quelques 2 500 000 personnes sur ces chaînes, ce qui fait qu'il restera à peu près 2 900 000 finales pour la finale de la 7e saison de Top Chef sur M6, ce qui n'est pas non plus un four, si j'ose dire.
Dans lesquels on compte Colline Foulquier et Xavier Pincemain, les deux finalistes.
Exactement, elle est chef à domicile, il est seconde cuisine au Trianon Palace de Versailles, 2 étoiles au Michelin. Dans cette 7e saison, plusieurs candidats ont beaucoup critiqué le montage. Et eux alors, qu'est-ce qu'ils en pensent s'ils ont regardé les émissions ?
Moi, oui. Il y a peut-être une émission où, oui, j'ai été un petit peu déçue parce que je savais ce qui était sur les rushs. C'est l'épreuve du Puy du Fou. J'en ai pas du tout voulu à M6. Ils ont rien inventé. C'était moi. Moi, j'ai été très spontanée. Donc, j'ai été plutôt très contente de tout le montage. Je sais quand j'ai merdé, quand j'ai fait des choses bien, et je sais que j'ai été moi-même à 300%.
Moi, au début, je voulais pas du tout visionner parce que, j'aime pas me voir à la télé. Que rien que ma voix, pour moi, c'est différent, tout ça. Maintenant, je suis obligé de regarder parce que faut réagir sur les réseaux sociaux, c'est important par rapport au montage. Je trouve que M6 ont fait du très bon travail. C'est un plaisir de regarder les émissions. C'est la vérité. Je suis quand même mis en valeur. Je me fais pas descendre sans arrêt. Je pense que les personnes qui sont descendre, c'est ceux qui sont pas naturels.
Et l'émission reste un accélérateur de carrière. Alors, combien estime-t-il qu'elle leur a fait gagner en temps?
C'est difficile à décrire parce qu'on sait pas ce qu'on aurait fait sans Top Chef. Moi, je pense que c'est surtout au niveau de la confiance en moi que ça m'a fait gagner bien 4 ou 5 ans de maturité. Après, au niveau de la technique également, parce que j'ai dû aller plus loin dans mes retranchements et dans mes habitudes de cuisinier.
Alors moi, je pense que j'ai pris à peu près, on va dire, 5 ans. Non, mais c'est super parce qu'au final, j'ai pris plus de maturité, plus de confiance en moi. J'arrive plus à m'exprimer. Par exemple, si je dois avoir une table d'une dizaine de clients, je parle sans problème. Là-dessus, j'ai appris beaucoup. Je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Et donc c'est vrai que j'ai pris, 5 ans de maturité grâce à ça, et c'est magnifique.
Alors soyons clairs, Top Chef leur a fait gagner plus de temps que d'amis. Colline est restée très liée à Franck, Pierre, Thomas, Kevin, vous regardez, donc vous voyez à peu près qui c'est. Pas du tout au jeune surdoué Gabriel, le jeune HEC de la cuisine. Et quant à Xavier, lui, il dit qu'il est resté lié avec personne, qu'il est venu pour gagner. Et le credo des deux finalistes, c'est « aller vite ».
C'est très éphémère et c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne le bon que ça peut nous apporter.
Il faut savoir que dans un an, il y a les prochains Top Chef qui arrivent parce qu'il y a déjà le casting de Top Chef 8. Donc il faut se dépêcher.
Voilà, donc c'est pas un scoop, mais c'est déjà une confirmation. Le casting de Top Chef 8 a commencé.
20h50 sur
M6. Le favori,
finale.
C'est Xavier.
C'est Xavier, oui. Mais il peut y avoir des surprises, vous savez.
Oui, tout à fait. C'est un bon challenger, elle.
Dans un instant, on va faire un tour au Petit Palais grâce à Monique Younes qui nous fait rentrer dans les ateliers des grands artistes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
Chère Monique Younes,
oui,
tous ceux qui ont rêvé de visiter les ateliers de nos grands artistes seront comblés, m'avez-vous dit, par l'exposition de photographie qui a lieu en ce moment au Petit Palais à Paris. Elle a pour titre « Dans l'atelier » nous montre tout ce qui se passe dans les lieux de création des artistes du 19e siècle à nos jours, autrement dit d'Ingres à Jeff Koons.
Oui, parce qu'un atelier n'est pas seulement un lieu clos où les artistes travaillent. C'est aussi un lieu ouvert où les artistes reçoivent, font des fêtes. Ils n'accueillent pas seulement leurs modèles, mais aussi leurs parents, leurs maîtresses, leurs collègues artistes et autres amis fidèles, m'a fait remarquer Susanna Gallego-Cuesta, la co-commissaire de l'exposition.
Dans nos recherches, nous avons pu nous rendre compte que l'animal préféré des artistes, c'est le chien. On a quelques chiens stars dans l'exposition. Bien sûr, Casbec, le chien de Picasso quand il était dans son atelier au Grand Augustin. Ça permet de réfléchir pourquoi plutôt des chiens que des chats. Les chats, c'est pas très poli, ça se balade un peu partout. Les chiens, je pense qu'on peut les mettre un peu plus à carreau. Pourquoi pas de perroquets ou de colombes? Les deux grands collectionneurs de colombes de l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est Matisse et Picasso. Mais il est rare que nous les voyons figurer dans les photos d'atelier.
Alors, au Petit Palais, vous pourrez jouer à « Montre-moi ton atelier, je te dirai qui tu es ».
Oui.
Et en photographiant les ateliers des artistes pendant leur pause déjeuner, en leur demandant de ne rien déranger, le photographe Gauthier de Blonde réussit à capter les sources d'inspiration de chacun d'entre eux. De la cèse de Pierre Soulages à l'usine de Jeff Koons, en passant par la mégalomanie d'Anish Kapoor, dont l'atelier occupe toute une rue de Londres, on découvre tous les détails de ces lieux magiques et on se rend aussi compte que les ateliers d'artistes ne sont pas tous de grands espaces hauts de plafond avec une grande verrière orientée au nord, comme se plaisent à répéter les commissaires Susanna Gallego-Cuesta et Delphine Devaux.
Celui de Louise Bourgeois à New York est un basement, donc bas de plafond, avec un éclairage un peu spécial. Et on a un peu de tout, des ateliers misérables, des ateliers minuscules, comme celui de Giacometti, qui faisait 22-23 mètres carrés, rue Hippolyte Mandron.
L'atelier de Bacon, c'était une mise en scène de soi extraordinaire. C'est des couches. Il ne lavait jamais rien, il ne faisait jamais le ménage, il ne balayait jamais, il ne nettoyait pas ses pinceaux, il les empilait. Il y a une table sur laquelle il y a à peu près 30 cm où il y a à la fois du papier, de la peinture, de l'essence, des assiettes, des pinceaux. Il marche sur la même chose.
C'est la grotte d'inspiration de Francis Bacon.
C'est peut-être la photo la plus hallucinante de cette exposition.
Mais est-ce qu'on voit aussi les artistes à l'œuvre dans leurs ateliers ?
Bien sûr. Alors, sont exposés au Petit Palais près de 500 clichés qui vont de 1870 à 2010. Alors, il y a les premiers daguerreotypes sur lesquels Ingres fait la tête, aux photos de Jeff Koons tout nu dans sa salle de sport de son atelier usine, photographié par Annie Leibovitz. Tous les artistes de tous les temps se sont prêtés au jeu de la photo d'atelier. Alors, les plus anciens prenaient majestueusement la pose devant leur toile, la palette à la main, les pinceaux entre les doigts, le manteau haut levé pour chercher l'inspiration. Et les plus modernes ont délaissé ces poses caricaturales et se sont laissés surprendre en plein travail. Et leurs gestes sont souvent très très beaux. Ils ne permettent pas toujours de les reconnaître d'ailleurs, et cela peut être l'occasion d'un jeu de devinettes.
Bien sûr, Picasso, de loin, de dos et en short, on sait que c'est lui. Matisse, je pense qu'on le reconnaît assez bien, Toulouse-Lautrec. Est-ce que Dali, on le reconnaît aussi bien ?
Ah, Dali de dos aussi quand même.
Avec sa barrettina et ses espadrilles, hein, forcément.
Ce qu'on espère aussi, c'est que le visiteur s'interroge de temps en temps sur les œuvres qui sont sur les photographies, parce qu'il y en a énormément qu'on ne connaît pas, qui ont disparu, parce que le fait d'être dans un atelier, beaucoup d'œuvres ne sont pas gardées, ne passent pas à la postérité, sont détruites dans les ateliers qu'on ne verra jamais.
Ne ratez pas, dans l'atelier, c'est au Petit Palais, un palais pas si petit que cela et qui décidément, depuis quelque temps, produit des expositions vraiment passionnantes. Prévoyez du temps pour celle-ci parce qu'elle est vraiment particulièrement riche. C'est un regard sur la vie d'artiste, mais posé par des photographes qui sont eux aussi des artistes.
Merci beaucoup Monique Younès. Donc dans l'atelier au Petit Palais à Paris.
C'est jusqu'en juillet et si vous ne passez pas par Paris d'ici là, le catalogue est vraiment splendide.
Merci Monique. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné le dernier roman de Philippe Djian qui paraît chez Gallimard. Son titre, Dispersez-vous, ralliez-vous. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, vous gagnez le dernier roman de Philippe Djian qui paraît aux éditions Gallimard. Si vous avez répondu à la question qui était la suivante que vous posez Bernard Lehu, Myriam, l'héroïne de Dispersez-vous, ralliez-vous.
C'est un vers de Rimbaud, on le rappelle.
Merci de Arthur. Le rappeler. Vit près d'un lieu inhabituel. Est-ce un zoo ou un parc d'attractions ?
Eh bien, il s'agit d'un zoo. Voilà. Le zoo voisin et où elle jette, comme le racontait Philippe Djian, les cendres du père dans l'enclos des gnous.
Au gnou, faut-elle faire quand même, ça nous dit quelque chose.
C'est un grand moment du livre.
Bon, voilà. Et vous n'aimez pas que je vous dise que je trouve Philippe Djian très en forme quand il est avec vous, mais moi je vous dis quand il est avec vous, il est particulièrement en forme. On était heureux de vous présenter tous ces rendez-vous dans cette émission ce matin. Le livre est gagné et on rappelle qu'il est dédicacé, bien entendu, par l'auteur grâce à Bernard. Passez une excellente journée à l'écoute d'RTL. On va retrouver immédiatement Julien Courbet.